I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quelles sont vos qualifications?
Ah oui, j'ai fait lettres, diplômé d'Harvard et après j'ai beaucoup voyagé. J'ai traversé la grande peste noire et ça m'a bien éclaté. J'ai vu l'exorciste 2747 fois. À chaque fois je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette ce film, nom de Dieu! Sans oublier que vous parlez à un type qui est complètement mort! Alors ça vous va?
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. Sont présents autour de cette table Guillaume et Aurélien. Comment ça va?
Ça va, toi?
Si quelqu'un va mal un jour, dites-le. On commence sur 20 minutes de podcast comme ça, mais c'est un autre problème, quoi.
Faut que je passe chez Feu Vert, personnellement, parce qu'en fait, ma 206, mes pneus arrière, en fait, ils sont dégonflés. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un.
C'est long,
On peut faire un vote. Est-ce qu'on peut en parler pendant 20 minutes? On n'a pas l'air d'accord. À côté de vous, une invitée que j'ai découvert il y a un peu plus d'un an et dont j'aime beaucoup le travail, Flore Maquin. Comment vas-tu?
Ça va bien, et toi?
Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? J'ai pas répondu oui, en fait.
Tu réponds jamais, c'est très bien.
Alors, attends, mais je te laisse répondre. Oui. C'est comme les gens en texto, ils t'envoient genre, hey, comment vas-tu? On sait tous que quand tu dis ouais, ça va, bah, ils s'en foutent en vrai. Tu vois. Mais si t'es content de savoir que j'ai bien, je suis ravi.
Oui.
Ouais, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas?
Alors en fait, moi je me définis comme graphique artiste, mais graphique artiste c'est un terme anglais parce que je suis pas que graphiste en fait, entre guillemets, je dis que, mais c'est pas du tout péjoratif. En fait, en anglais, on définit graphiste et graphic designer, et graphique artiste c'est une autre partie en fait de ce qui est fait sur ordinateur. Et donc moi je réalise en ce moment du moins des portraits de digital painting, digital art, c'est de la peinture numérique en fait, traduit littéralement, voilà, et je fais pas mal d'affiches alternatives de films aussi.
Alors moi j'ai découvert ton travail sur Insta et je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'était avec un portrait de Marty McFly. Et ce que j'ai tout de suite adoré dans ton travail, c'est que j'ai l'impression qu'on déjà on partage les mêmes rêves. Et je trouve ça très cool parce que c'est hyper niché. Il peut y avoir des portraits de Kill Bill par exemple, mais aussi du juge Dredd.
Ouais.
Je trouve ça très bien. Ouais. Et en fait avec Guillaume Aurélien, on connaissait ton travail depuis longtemps. Donc c'est pour ça qu'on est content de t'avoir là aujourd'hui. Mais surtout, je trouve que c'est homogène, je trouve ça beau, je trouve ça très précis dans le dessin. Et ouais, les rêves sont cool, quoi. Et t'as aussi eu, tu vas nous expliquer ça, les honneurs du Festival de Cannes, quelque part.
Yes, ouais, non, ça, c'était un gros... J'ai un pas de mou, en fait, c'est très difficile pour moi, parce que c'était vraiment un graal pour moi de réaliser l'affiche du Festival de Cannes. J'ai eu l'honneur de la faire deux fois de suite, et c'était incroyable. Ça l'est encore aujourd'hui, on m'en parle souvent, même moi, j'en parle souvent, c'est dingue, surtout que là, je viens d'avoir 30 ans et c'est de faire ça avant ces 30 ans, c'est fou, quoi. Et j'ai manqué un peu d'expérience. Enfin, j'ai arrivé vraiment sans connaître les grands événements comme ça et j'ai appris sur le tas et c'était hyper formateur.
Alors, pardon, Guillaume.
Non, mais ce que j'ai demandé, c'est comment ça se passe? Parce que du coup, tu reçois un mail genre « Salut, on adore ton travail, bah voilà, tu peux faire la fiche du Festival de Cannes, comment ça se passe ?»
Un texto. En fait, j'ai travaillé, je ne sais pas si vous connaissez l'Institut Lumière à Lyon, c'est un institut de cinéma, qui est notamment créateur du Festival Lumière, et qui est géré par Thierry Frémaux. Et j'ai travaillé là-bas pendant 3 ans à l'Institut Lumière, je suis partie, et un an après, Thierry Frémaux m'a appelé et m'a demandé si j'étais intéressée pour réfléchir à l'affiche du Festival de Cannes. Évidemment, j'ai dit, je n'ai pas tellement le temps en ce moment.
Je suis sur un portrait de Judge Red, là, donc
très, très prise. Non, évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Mais à ce moment-là, c'était vraiment pour y réfléchir. Il fallait qu'il voit des choses avant d'acter ça. Et puis après, on a dit, go, quoi.
Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne connaissent pas vraiment ce qu'est la tradition autour de cette photo de Cannes, est-ce que tu peux nous expliquer ça? En gros, c'est la photo qu'il y a au-dessus des marches, quoi.
Exactement. Voilà, le palais des festivals, en fait, est, entre guillemets, habillé à chaque Festival de Cannes par un énorme... une toile, en fait, c'est une toile tirée en fait, sur le palais des festivals. Et je pense qu'elle mesure facile 30 mètres de large. Donc c'est ça qu'on voit souvent, c'est ce qui illustre le Festival de Cannes à travers tous les pays, hein, d'ailleurs, dans tous les médias, c'est l'image du Festival de Cannes. Voilà.
Est-ce que tu peux nous décrire les deux affiches que tu as créées pour eux, du coup?
Alors la première, c'était en 2018, c'est celle de... En fait, c'est Pierrot le Fou, c'est une photo de tournage tirée du film Pierrot le Fou avec Jean-Paul Belmondo et Anna Karina, et qui s'embrassent, en fait, sur la photo.
Avec deux voitures différentes, hein, si mes souvenirs
sont bons. Exactement, une voiture bleue et une voiture rouge, tout à fait. Et donc voilà, ça a été c'est un montage photo, les deux sont des montages photo. La deuxième année, c'était un montage photo sur Agnès Varda, donc qui surplombait un peu, enfin... on va dire, dans l'imaginaire, ça allait surplomber la baie de Cannes. En fait, c'était ça l'idée derrière cette photo, ce montage du moins. Et c'était aussi une photo de tournage de un de ses films. C'était à 7. Et je crois que c'est un de ses premiers films, parce qu'elle était vachement jeune sur la photo.
Ouais, grimpe sur les épaules d'un assistant pour pouvoir filmer.
Oui, c'est et ça. Impossible de retrouver le nom de l'assistant. C'était impossible. On a vraiment cherché de partout pour.
Personne ne sait s'il est encore vivant ou pas.
Ah bah ouais, c'était même la photo aussi. On avait du mal à trouver.
C'est fou.
Qui était l'auteur de la photo, ouais.
Trop bien. Alors, si on scrolle le compte Insta de Flore, on se rend compte que sa toute première photo postée est un dessin de Beetlejuice. C'est donc le film tout trouvé pour le sujet du jour. Film réalisé par Tim Burton en 1988, son deuxième après Pee-wee Big Adventure, il réunit à l'écran Gina Davis, Alec Baldwin, Winona Ryder et surtout Michael Keaton qui explose cette année-là grâce à ce rôle de Beetlejuice si singulier. Ce film raconte l'histoire d'un couple de jeunes mariés qui, après avoir péri dans un accident de voiture, doit composer en tant que fantôme avec la nouvelle famille qui s'installe dans leur maison. Beetlejuice a obtenu l'Oscar des meilleurs maquillages en 1989 et est placé à la 88e place des films les plus drôles de l'histoire du cinéma américain, selon l'American Film Institute. Alors je me tourne vers vous, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre tout premier souvenir lié à ce film, Flore?
Mon premier souvenir, je pense que quand j'étais petite, je ne l'ai jamais vu en entier, ce film. Donc ce que je me souvenais, c'était surtout de Beetlejuice, alors qu'il apparaît très peu dans le film au final. Mais je me souvenais beaucoup de lui, beaucoup moins de l'histoire. Je me rappelais de ce personnage-là et après, je pense que j'ai vu les dessins animés, parce que j'étais assez jeune, les dessins animés, c'est années 90. Et je pense que j'ai redécouvert le film après, en entier. Mais Beetlejuice, je me souvenais, même petite, je me souvenais de cette créature un peu bizarre, habillée de noir et blanc. On dirait que ce costume noir et blanc, voilà, c'est ça, je pense.
C'est vrai, on n'y pense pas assez, mais il y a eu les dessins animés Beetlejuice, enfin le dessin animé Beetlejuice après. Et il y a même eu la gamme de jouets Beetlejuice qui était très cool. Et les jouets étaient vraiment, je vous conseille de checker ça sur YouTube, les jouets étaient vraiment novateurs et créatifs parce que tu appuyais sur des boutons, la tête se retournait avec une langue qui sortait, etc. Et il y avait plein de jouets comme ça qui étaient très cool, Beetlejuice. Toi, Guillaume, ton premier souvenir?
C'est un peu pareil en fait, parce que j'étais quand même assez jeune et je me souviens surtout du dessin animé et que j'ai redécouvert le film après.
C'est marrant ça.
Et je pense que j'avais une figurine Beetlejuice, mais que j'avais dû avoir un Happy Meal ou un truc comme ça, je sais pas.
Ah ouais.
Je pense pas. Non, pas un Happy Meal parce que j'avais pas le droit, mais j'imagine que j'avais dû le voler à un gars.
Ok. Très bien.
J'avais volé un Happy Meal. Ben,
oui. Horrible.
Toi, Aurélien?
Moi, je suis un peu plus vieux. Je pense que c'est à un moment où je découvre un peu Tim Burton. C'est pas le premier Tim Burton que j'ai vu. Je crois que j'avais vu Edouard aux mains d'argent avant.
Ok.
Et après, je me suis tapé, tu sais, quand tu regardes tous les films à la suite, là. Et Beetlejuice, je le trouvais bien, mais la première chose dont je me souvenais vraiment, c'était genre les maquettes et les vers de sable.
Ouais.
Parce qu'à l'époque, je lisais Dune, et l'univers, quand il sortait de la maison et tout ça, là, je sais pas, je trouvais ça trop bizarre. Tu sais, on aurait dit des chaussettes, tu sais, le fait que les serpents, ils soient rayés comme ça, là. Je sais pas, ça me faisait penser à des chaussettes rayées. Enfin bref, ça n'avait aucun sens. Mais je me rappelle beaucoup des maquettes et tout ce truc un peu, genre, comme si c'était de l'animation en stop motion. Moi, Beetlejuice, c'est surtout ça dont je me souviens. Et Winona Ryder.
Ouais.
Quand même.
Moi, je me souviens qu'on l'avait loué au vidéoclub avec ma mère. Et dans mes souvenirs, Beetlejuice, c'était le premier film qui était à la frontière de ça fait peur, mais en même temps, ça fait pas assez peur pour que je puisse le regarder en entier. Ouais. J'étais jeune et il y avait un côté où c'est un film de grand, mais je peux aller jusqu'au bout. Alors qu'à l'époque, je me souviens que des films comme Freddy ou Vendredi 13, c'était compliqué d'aller au bout du haut de mon jeune âge.
Ouais,
ouais, mais tu vois, c'est clair. Comme dit Aurélien, le verre de sable, etc. Enfin, tu sais, quand t'as 9-10 ans, ça fait peur un peu. Ça,
bah oui, le moment où elle coupe la tête de son mari aussi.
Ouais, voilà.
Elle sent un peu quand même dedans, où elle s'arrache le visage et tout.
C'est vrai, exact.
Quand t'es enfant, c'est un peu...
Ouais, puis il y a même... Ouais, voilà, quand elle s'arrache le visage, c'est quand ils essaient de faire peur à Winona Ryder, c'est ça?
Ouais.
Non, c'est la mère. Catherine O'Hara.
Oui, c'est ça.
J'ai oublié le nom, mais son nom de scène, son personnage, mais en tout cas, ils sont dans le placard et Jenna Davis est accrochée par une corde pour leur faire peur. Et ils sont là, oh mon dieu, mais quelle horreur, ses vêtements sont immondes ou ce dressing est immonde, je crois.
Le dressing est trop petit. Est-ce que vous êtes friand, de manière générale, du cinéma de Tim Burton? Parce que c'est quand même un cinéma singulier, Flore.
Oui, mais moi j'ai un film de Tim Burton dans la tête qui n'est pas le Tim Burton pour moi, La planète des singes. Tim Burton, pourtant j'adore ce film.
C'est vrai qu'on pense pas à ce film-là.
Mais jamais. Moi je le trouve vraiment, vraiment cool ce film.
C'est vrai qu'il est bien.
Et les make-up étaient géniaux. Il y a quand même un peu de patte de Tim Burton, mais on est moins comme Mars Attacks, des choses comme ça. Quoi.
C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que si on me demande de citer 5-6 films de Burton, jamais La planète des singes me vient en tête.
Non plus. Mais j'aurais plutôt ce truc, tu sais, cette tendance un peu gothique de Burton, tu vois. Mm. Et c'est pas un univers qui me parle forcément. le truc, tu vois ce que je veux dire?
Pas, quoi.
Ça, non, ça, ça,
mais
ça,
je,
ça.
Je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais.
Mais je sais pas, c'est pas un de mes réalisateurs préférés en tout cas, c'est sûr.
Mais après, tu vois les délires Batman, Beetlejuice, etc. Ouais. Ça me parle. Ouais. Mais après les, toi par exemple Sleepy Hollow, etc. Je peux les regarder, je les aime bien. Mais ça va être moins mon délire quand même. Ouais.
Parce qu'à ce moment-là, ça devient un peu aussi une parodie de son propre style, je trouve, ouais. Vers la fin des années 90 et tout.
Mais après, ce que j'apprécie, c'est qu'il cool. a réussi à imposer sa patte. Et ça, c'est tellement rare finalement chez mise en scène, ouais. Chez les réalisateurs, de voir un film et de se dire « Ok, en fait, sans le savoir, en même pas 30 secondes, je pourrais savoir que c'est un film de Christopher Nolan ou de Tim Burton ou peu importe. »
Puis dans Beetlejuice, je pense qu'il a ce côté justement un peu conte pour enfants flippant. Qui est un peu son truc qu'on retrouve dans L'étrange Noël de Mr. Jack, même oui. si c'est pas vraiment un film de lui, mais en gros, je pense que c'est ça dans l'imaginaire collectif. Tim Burton, et ça, marquant, moi, je trouve ouais. ça cool. Ouais. Ouais. C'est ce qui est le plus marquant et le plus réussi, en fait, quand il fait des trucs un peu animés comme ça. C'est pour ça que j'aime bien les parties animées dans Beetlejuice. Je trouve que c'est là où il y a plus son univers un peu bizarre, fait de bric-à-broc étrange, moitié enfant, moitié flippant.
T'as raison de le souligner, parce que je crois que le budget du film était de 13 millions. Ou de 7 millions, si je ne dis pas bêtise.
Ouf.
Et un seul million a été utilisé pour les effets visuels. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la majeure partie des effets visuels, c'était vraiment, comme tu as dit, bah, un peu pas l'arrache, mais fait de briques et broc. Quoi, tu vois.
Déjà, le fait de mettre la maquette à l'intérieur, où c'est un des personnages principaux qui fait une maquette, et au final, la maquette, elle sert après. Dans le film, tu te dis, ouais, en fait, c'est d'une pierre deux coups, tu vois, il fallait qu'il le mette. C'est ça, j'ai bien aimé, moi.
Alors, Aurélien, ce film est, entre autres, important pour une chose, car il va voir débuter une amitié artistique entre Tim Burton et Michael Keaton, qui n'aurait probablement jamais pu incarner Batman s'il n'avait pas joué dans Beetlejuice. De c'est Michael vrai. Keaton, on a parfois l'image d'un personnage sérieux, sobre et élégant, suite à sa performance en tant que Bruce Wayne. Pourtant, à la base, c'est un stand-upper et un humoriste acharné.
C'est vrai. C'est un comique et c'est un personnage avec beaucoup de facettes. D'ailleurs, il y a ne serait-ce qu'une histoire qui est assez marrante. Vous savez que Michael Keaton, c'est pas son vrai nom, en fait. Mmh. Qui à la base il s'appelle comment, vous savez?
Non, pas du tout.
Julien Lepers.
presque Julien Lepers. Non, à la base il s'appelle Michael Douglas.
Ah ouais.
Et en fait, vu que Michael Douglas ça existait déjà, quand il a commencé à être connu, ils lui ont dit bon, il va falloir que tu trouves un truc. Donc il a commencé à prendre dans l'annuaire et tout, et il s'est mis à K, parce qu'il aimait bien K. Au début il disait Keats, mais il faut, ouais, c'est un poète anglais hyper connu, ça fait un peu, je me le raconte. Il a dit Keaton, ouais, John Keaton, j'aime bien Buster Keaton, il a pris ça, mais en fait c'est un alias. Parce qu'il y avait déjà Michael Douglas et un autre qui s'appelait Mike Douglas, un grand présentateur télé, donc c'est comme ça qu'il arrive sur le jeu. Mais à la base, donc, c'est un mec qui vient de Pittsburgh et qui est acteur. En fait, ce qui est assez marrant, c'est en gros, vous avez vu le film Birdman.
Ouais.
Oui.
On a l'impression que c'est presque le film de sa vie, parce que en gros, vraiment, Michael Keaton a commencé au théâtre en faisant un peu de la mélange de comédie, humour un peu noir à la Tim Burton d'ailleurs, et du dramatique, tu vois. Et il marchait vraiment entre les deux à chaque fois à Pittsburgh. Et la grosse histoire de sa vie, c'est qu'à Pittsburgh, à cette époque-là, il lance la production de Mr. Rogers' Neighborhood, un film dont on avait parlé d'ailleurs. Enfin, à la base, c'est donc une émission, c'est un peu genre, je sais pas comment dire, Dorothée chez les Quinry,
ouais,
quoi. Enfin, c'est
pour enfants.
Voilà, un peu moins bête finalement que Dorothée.
Ah ouais, c'est un peu plus, comment dire, pédagogique. Ça ouais. raconte plein d'histoires, etc. Et à l'intérieur de cette émission, donc, qui est produite à Pittsburgh à cette année-là, en 1975, et qui est diffusée dans toutes les États-Unis, Michael Keaton va avoir un petit segment qui s'appelle. Alors, attendez, c'est quand même assez légendaire. En fait, il va jouer un clown. Il va jouer un clown dans les Flying Zucchini Brothers. C'est cinq frères qui, en fait, sont des hommes canons. Et donc, pendant le spectacle de Monsieur Rogers, à un moment, il y a une phase où, pendant, je crois, 2 ans, il va être donc un homme canon, et ils vont faire même des propres spectacles après à Pittsburgh sous ce nom-là.
Et t'es loin de Batman à ce moment-là.
Ah ouais, complètement.
Quand t'es Monsieur Canon.
Complètement. Et après, il deviendra même assistant principal de cette émission. Donc, c'est vraiment une grosse partie de sa vie. D'ailleurs, ça va être lui la voix. Il y a eu 2 documentaires qui ont été faits après la mort de Monsieur Rogers, le fameux. Et il y en a 2 où, en fait, il témoigne, et un autre où il fait carrément toute la voix off, parce que c'est vraiment devenu un personnage les plus emblématiques de cette émission. Donc, c'est un peu comme ça qu'il a commencé. Et à l'époque, comme tu le disais, il faisait aussi du stand-up. Donc, il traînait dans les clubs de jazz, en fait, à l'époque, à Pittsburgh, parce qu'il y avait très peu de comedy club. Et donc, il avait un club de jazz où il allait tout le temps. Et en fait, c'était le seul comédien du club de jazz. Donc, en fait, il y avait des concerts de jazz. Et entre, il avait prévu des petites séquences de 7 minutes écrites. Il disait à l'époque, je faisais pas d'impro, je savais pas trop faire. Juste, j'écrivais des sketchs. Et il disait, je me tapais beat sur beat, parce que les mecs venaient écouter du jazz, en fait. Ouais, et moi, j'étais là, je faisais des blagues sur Pittsburgh. Personne ne comprenait rien. Donc, c'était un peu ça, le début de la carrière de Michael Keaton. C'était un peu, bah, le musical, quoi. Le mec, il faisait un peu de tout. Il faisait de la comédie en même temps. Il faisait un peu du spectacle. C'était vraiment ce mélange des années 70 qui est un peu particulier, qui va être aussi la naissance des émissions comme Saturday Night Live, où, au final, ouais, dont on a déjà parlé dans le podcast, où au final, bah, c'était un peu des nouvelles façons de faire du divertissement, qui est donc à moitié acteur, à moitié comédien, à moitié des fois un peu chanteur, parce que des fois, il avait des petites phases où il imitait des choses un peu comme ça, tu vois.
Ouais, et d'ailleurs, si vous checkez un peu ce que faisait Michael Keaton sur YouTube en tant que stand-upper,
ouais, il n'y a pas grand-chose,
mais on retrouve un peu des bribes d'énergie qui reprend dans Beetlejuice, quoi, dans la façon de jouer.
Et bah justement, c'est comme ça qu'il se fait connaître. Alors que pour lui, c'est pas vraiment son plus gros talent, le stand-up, mais c'est un peu comme ça qu'il commence à tourner, et c'est comme ça qu'il s'exporte aussi. Il part à New York. Et la fameuse séquence dont tu parles, elle est assez folle, parce que c'est donc un stand-up qui dure 5 minutes, je crois, qui est sur YouTube, où tu le vois, et c'est au Gotham Comedy Club. Ça s'en rend pas quand même. Ouais, en 1980, drôle, le mec, il joue au Gotham Comedy Club, et il a des petites séquences comme ça, il se fait un peu remarquer, mais sans plus, et c'est après, quand il va à Los Angeles, que là, il commence à rentrer un peu dans le roster des sitcoms, parce que les gens, ils voient qu'il peut jouer un peu tous les types de rôles, et donc il a quelques rôles dans des sitcoms à la fin des années 70, mais il y en a surtout un qui va arriver en 79 qui s'appelle Working Stiffs, et dans lequel il va jouer en gros un mec de l'entretien dans un lycée, tu vois, qui gère un peu tout ça, et en fait c'est un duo avec Jim Belushi, le frère de son frère.
James Belushi,
exactement, et donc ça, c'est une série qui va ne durer qu'une seule saison, mais vu qu'à l'époque, les Belushi, tout le monde en parle, et qu'il se passe extrêmement beaucoup de choses, c'est un peu le point de départ pour la carrière de Michael Keaton, et donc comme comédien vraiment. C'est-à-dire que cette série, c'est une série où il y a énormément de gags visuels, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cascades, il y a beaucoup de blagues physiques. Michael Keaton dira très souvent que ça a été une saison très courte, mais qui lui a appris énormément de choses sur l'humour de situation. C'est là où les gens ont cru qu'il s'appelait Michael Keaton à cause de Buster Keaton d'ailleurs. Et comme tu dis, c'est des choses qu'on retrouve dans Beetlejuice en fait, et qui vont être un peu sa marque de fabrique dans les années 80, quand il va se faire repérer dans le film, dans le cinéma. Et en fait, ce qui est intéressant avec Working Stiff, c'est que donc c'est une série qui a été créée par Bob Brunner, qui est le créateur de Fonzie, le personnage Fonzie dans Happy Days. Et donc ça, faut le garder, parce que Happy Days est très important dans cette chronique, parce que tout simplement, le premier réalisateur qui va lui donner vraiment une chance dans un film qui s'appelle Night Shift, c'est Ron Howard, qui n'est autre que Richie de Happy Days. Et dans ce film, il va y avoir donc Michael Keaton en rôle principal, avec Henry Winkler, qui n'est autre que
Fonzie
de Happy Days. Donc tout ça, tu vois, c'est vraiment tout secret. Et juste une petite parenthèse pour toi, JB, car je sais que tu es très fan du film. Mais donc si on revient sur la série Working Stiffs, le tout premier épisode est la première réalisation d'une réalisatrice qui deviendra très connue.
Penny Marshall.
Ouais. C'est son premier, le premier épisode de la série. C'est la première réalisation ever de Penny Marshall, qui fera donc Big et plein d'autres films plus tard. En fait, Michael Keaton, il est un peu au milieu de tout ça. Les retours un peu de la comédie dans tous les sens à Los Angeles. Et pendant tout le début des années 80, justement avant Beetlejuice, il va se faire connaître qu'avec des films comme ça. Donc là, Night Shift, vous en parlez, de Ron Howard, je vous recommande vraiment, parce que c'est quand même l'histoire de deux mecs qui bossent à la morgue de nuit et qui se retrouvent à faire, en gros, un business avec des prostituées.
Okay.
C'est assez incroyable comme pitch, et ça se passe très bien. Et Fonzie, dans le film, est le mec le plus stressé de l'histoire, alors que Michael Keaton est un énorme pimp, donc c'est assez incroyable.
Alors, en parlant de morgue, ça me permet de placer une petite anecdote que j'ai entendue il y a quelques jours. En ce moment, j'ai terminé de regarder tous les films de Bergman, parce qu'il y a une sorte de cycle sur Canal Play, et il y a un documentaire sur la vie de Bergman qu'après j'ai récupéré sur YouTube, et il raconte une anecdote de son enfance qui est assez incroyable. En gros, il habitait à côté d'un parc, et dans ce parc, il y avait une maison funéraire, et dans cette maison funéraire, il y avait aussi une morgue. Et il a à peu près 11-12 ans, il est avec ses amis, la nuit commence à tomber, et un ami a la mauvaise blague, enfin une mauvaise idée de l'enfermer dans la morgue. Lui, il a 11 ans à ce moment-là, et il se retrouve enfermé dans une morgue. Les gens qui travaillent ne sont plus là, sont partis. Donc là, il tambourine à la porte, ses amis sont partis en ricanant, et il se retrouve seul dans cette morgue du haut de son jeune âge. Et il se retourne, et qu'est-ce qu'on fait quand on est petit? Ben, on est curieux, et en fait, il se balade un peu dans la morgue, et il voit une jeune femme de 20 ans, morte, qui a juste un drap sur elle, le visage est découvert, et il s'approche, comme n'importe quel enfant s'approcherait, parce que là, ça peut nous paraître un problème, mais c'est vrai que quand on a 10, 11 ans, et par exemple, on tombe sur un animal mort, bah, on a ce truc un peu de s'approcher, alors qu'on ne fait pas forcément quand on est adulte. Et donc, il s'approche, et les yeux n'étaient pas totalement fermés. Et en fait, il se rend compte que c'est comme si cette personne le regardait, en fait. Et à partir du moment où il réalise ça, il refonce à la porte, il cogne, et au bout d'une demi-heure, bah, il y a quelqu'un qui l'a entendu et qui l'a sorti de là. Et en fait, dans l'interview, il racontait que même aujourd'hui, enfin, du temps où il était vivant, même aujourd'hui, à 70 ans et quelques, bah, il en faisait encore des cauchemars, quoi. J'ai cassé un peu l'ambiance de ce podcast, mais c'était une bonne anecdote de Ingmar Bergman.
Et ben, voilà. Michael Keaton, il aurait fait une blague.
Et ben, voilà. Il en a fait une vanne.
Je pense. Et donc, c'est un peu ce qui se passe ensuite sur le bout de sa carrière, justement, avant qu'on arrive à Beetlejuice. C'est qu'il est devenu, en fait, une tête d'affiche de comédie. Ça va des très bonnes comme Mr. Mom ou Gung Ho, ou Johnny Dangerously aussi, qui est un super film que je vous recommande, une sorte de parodie de film de gangster. Par la réalisatrice de Fast Time at Ridgemont High, qui bien sûr est en train en ce moment de devenir reclassique avec la séquence où ils sont tous ensemble en train de se refaire le scénario.
Film scénarisé par Cameron Crowe.
Exact. Et en fait, il a un peu une carrière comme Tom Hanks dans les années 80. Donc c'est vraiment, on va dire, avec énormément de comédie, pas forcément de très haut niveau, tu vois, mais on sent qu'il se passe un truc et que potentiellement, lui, il essaye de passer du côté dramatique.
Tom Hanks qui a aussi débuté avec Happy Days.
Exactement.
Ouais. Tu vois, donc,
tout est lié dans cette affaire. Et juste pour la petite info, il y a un moment où vraiment Michael Keaton se dit ouais, il faut que j'essaye de faire des choses plus dramatiques pour qu'on me laisse pas uniquement dans un seul registre. Et il a un contact avec Woody Allen, qui est un énorme fan de son travail, et il lui propose le rôle principal de La Rose Pourpre du Caire. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film.
Si, si, mais il joue pas bien du coup.
Non, normalement, c'est en fait, il avait le rôle de Jeff Daniels à la base.
Ah, c'est drôle.
Ils ont quasiment tout tourné avec Michael Keaton, et à un moment, Woody Allen, il fait non, c'est trop moderne en fait. C'est trop. Ça correspond pas exactement au film. Il est trop dans l'air du temps, il est trop années 80.
Alors, pour vous donner une idée, La Rose Pourpre du Caire, c'est un Last Action Hero avant l'heure en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu le même scénario.
En gros, ouais, il y a un héros qui est dans un film, une femme qui va tout le temps voir des films, qui adore ce genre de film, et à un moment, bah, le héros sort du film.
En fait, c'est l'inverse de Last Action Hero.
Exactement. Oui. Et donc, à la base, Michael Keaton était choisi pour ce rôle principal, et il a touché de l'argent pour ce film, alors qu'il a parce qu'il a quand même bossé dessus.
Oui, forcément.
Donc c'est assez fou. Et donc, après arrive Beetlejuice et Tim Burton l'emmène vers d'autres choses. J'aime beaucoup la carrière des années 90 de Michael Keaton, même si elle est plus bigarré, mais je vous recommande quand même deux films. Un de Ron Howard encore, The Paper, où il est rédac chef d'un journal qui est vraiment super bien. Bonne comédie, et c'est le rôle principal. Et Multiplicity, un film de Harold Ramis.
Ah, tu l'aimes bien celui-là?
Ouais, moi j'aime bien.
Je l'ai revu récemment, je trouvais qu'il a mal vieilli. Je sais pas si vous connaissez ce film, c'est un film où en gros, c'est un type qui a une vie de famille assez éreintante. Et il a la possibilité, je ne sais plus comment, d'avoir un clone de lui qui restera à la maison et qui s'occuperait de toutes les tâches.
J'ai pas vu, moi.
Et en fait, après, sauf il décide d'en avoir un troisième.
Chaque
puis un
clone
quatrième.
Prend un trait de caractère de lui, en fait.
Ouais.
Sauf qu'il a que ce trait de caractère, et nul.
Ouais.
Donc, le comment dire, genre, il y a un méga intello, il y a un dragueur, il y a un machin, c'est absurde.
Ça, ouais.
C'est absurde.
Et du coup, il se retrouve avec plusieurs Michael Keaton à la fin, il ne sait plus comment les gérer parce que sa femme ne doit pas le savoir, en fait.
Parce que
sa femme tourne avec plusieurs clones, en fait.
Ouais. Andy McDowell, elle comprend plus rien.
Mais l'idée est cool.
Ouais, c'est cool. Bah, c'est Harold Ramis. Après, il y a toujours un moment où, bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et juste pour la petite anecdote, un dernier film qui, moi, m'a beaucoup plu, qui sort en 2005, c'est un film qui s'appelle Game 6, qui parle de baseball, donc forcément ça m'a plu.
C'est étonnant, dis donc.
Ouais,
qui est fan de films de baseball.
En gros, ce qui est marrant, c'est qu'on dirait un Birdman avant l'heure. Michael Keaton est un mec qui a écrit une pièce, et ça va être, tout se passe dans la même journée, ça va être une journée où il va lancer sa pièce, en fait. Et il est un peu en train de stresser, il sait pas trop si ça va se passer. Et c'est le même jour où son équipe de baseball préférée, les Boston Red Sox, joue les World Series en 86. C'est le dernier match, et en gros, il est à la fois à fond sur ce match, il comprend, les gens qui sont autour de lui comprennent pas pourquoi il est à fond sur ce match. En vrai, je suis en train de vous raconter un téléfilm, il est pas génial du tout, mais Michael Keaton, mais il a un peu un rôle comme ça. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre de voir la progression qu'il a toujours été entre comédie et drama, et qu'au final, je pense qu'il a tout réussi à mettre dans Birdman. Mais en tout cas, la saison, enfin toute la première partie de carrière avant Beetlejuice de Michael Keaton est vraiment très intéressante aussi, et beaucoup plus éclectique et folle. Si vous aimez bien Beetlejuice, regardez ses films d'avant. des années 80.
Ben merci Aurélien.
Bravo.
Vous le placez où, Michael Keaton, dans l'histoire du cinéma? C'est un acteur qui vous plaît, Flore?
Franchement, c'est difficile à dire. Si tu demandais de définir en un mot Michael Keaton, c'est impossible parce c'est que clair. Quand tu penses à Beetlejuice, c'est même juste Beetlejuice et Batman, quoi. Enfin, il y a un fossé énorme. Moi, c'est un acteur que j'aime bien parce que je l'ai connu jeune. Batman, tout ça, ça m'avait marqué. Et j'ai l'impression de l'avoir redécouvert récemment parce que les films dont tu parles, tu vois, qui sont arrivés en 2005, tout ça, j'ai l'impression de l'avoir redécouvert très récemment. Michael Keaton n'est pas l'avoir vu avant. Donc je suis contente un peu de le retrouver parce que j'ai un peu ce sentiment-là, un peu enfantin, de l'avoir découvert quand j'étais jeune. Mais je pense que j'aime bien. C'est un acteur que j'aime bien, ouais. En tout cas, qui est très talentueux.
Tu l'as déjà dessiné en tant que Batman, Michael Keaton, ou pas?
Non.
Non, pas encore.
J'ai essayé, mais pas encore.
Ok, d'accord. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que pour vous, c'est le meilleur Batman, Michael Keaton? Alors, je sais que c'est des débats qui déchaînent Twitter en général. C'est qui pour vous le meilleur Batman,
Guillaume? Non, mais après, c'est pas forcément lui le meilleur Batman, mais en effet, le Batman de Tim Burton.
Non, en tant que personnage, vraiment.
Oui, je comprends, mais...
Celui qui incarne le mieux Batman pour toi.
Je comprends, mais j'essaie de faire une petite pirouette. Bon, voilà.
Donc, y a réfléchi, Flore, toi, ton Batman préféré.
En fait, moi, je pense, j'ai entendu ça une fois, les James Bond qu'on adore, c'est souvent le James Bond qu'on a découvert. Ouais, donc moi, je suis de l'époque de Pierce Brosnan. Et j'ai découvert le premier Batman, c'est Michael Keaton, donc je pense que j'ai un truc un peu, voilà, je l'aime bien, parce que comme un enfant aime bien un film, tu vois.
Après, j'ai découvert le Joker avec Jack Nicholson, que je trouve extraordinaire. Mm-hmm. Mais quand j'ai vu le Joker interprété par Heath Ledger, je me suis dit, Heath Ledger, c'est le meilleur, quoi.
Et Joaquin Phoenix.
Non, pour moi, Heath Ledger...
Moi, j'arrive pas à les comparer. Pour moi, déjà, c'est des histoires différentes de Joker, en plus. Ouais. Ils ont pas du tout la même histoire. Et du coup, c'est vrai que c'est Jack Nicholson, il convenait très bien à ce brigand qui tombe dans ce truc-là et qui le rend un peu fou. Et à la fois, Heath Ledger, je le comprends totalement. Il me paraît tellement logique par rapport à son histoire. Mm. Et du coup, pour moi, c'est des Jokers, mais j'arriverai pas à les comparer, par exemple.
Sauf Jared Leto. T'arrives à...
Ah bon, lui, pardon, tu vois, je l'ai pas dit. J'ai pas mis Jared Leto.
T'arrives à comparer Jared Leto. Guillaume, alors, du coup
Meilleur Batman
c'est un sujet qu'il aime pas aborder. Il déteste ça.
C'est dur.
Ben Affleck. George Clooney, quand même.
Ben Affleck, il a un retour de flamme où, en gros, beaucoup de gens charriaient sa prestation de Batman. Et finalement, il y a un petit retour où tout le monde se dit Ben Affleck, c'était pas si mauvais, en fait, en Batman. Toi, Aurélien? Ouais.
Moi, en fait, je suis en train de juste me dire, quand même, Michael Keaton, en fait, Tim Burton, il nous a vraiment vrillé le cerveau. Parce qu'à aucun moment, tu te dis Michael Keaton, ça aurait pu être Batman.
Il y avait d'ailleurs eu des.
Tu sais, il a pas la tête, il a pas la carrure.
Batman, ce sera peut-être Pattinson.
Si ça se trouve. Parce qu'il a une bonne tête de. Ouais.
Et surtout, il fait que des bons choix de films, Pattinson. Et je trouve que sa carrière, elle est hyper intelligente, parce qu'il part quand même de Twilight. Donc Twilight, qui est un film qui quand même se faisait un peu charrier, parce que film pour ados, etc. Donc il part de là.
Ouais, c'est incroyable.
Et après, il tourne avec les frères Safdie, il tourne avec Cronenberg. J'ai l'impression que tous ces choix de films sont bons, en fait, à Pattinson.
Bah, franchement, moi, je l'ai vu dans Tenet, là, et j'ai vraiment hâte de le voir dans Batman. Hein, parce que là, vraiment, avec ce second rôle-là, je trouve qu'il vraiment crève l'écran. Et je ne l'avais pas vu depuis longtemps, moi, personnellement. Et là, j'ai vraiment hâte de le voir en Batman. Hein.
Tu l'as vu, le trailer de...
Le trailer?
Ouais, j'ai passé 2 ans à Montréal, moi aussi. Donc, quand je commence un cheeseburger, je dis un cheeseburger. Tu l'as vu, le trailer? Il t'a plu?
Le trailer de Batman.
Toi aussi tu dis trailer, ok, d'accord.
De Batman?
Ouais.
Non.
Non, tu l'as pas vu?
Je l'ai vu.
Il est très bon.
Je l'ai vu, mais il m'a pas plu.
Il m'a pas plu, non. Bah, j'étais pas contente.
Au bout d'un moment, j'en avais marre. En fait, je trouvais qu'on montrait beaucoup de choses.
Comme tous les trailers.
Oui. Je trouve qu'on vraiment montre trop de choses dans les trailers. Et au bout d'un moment, j'ai envie d'arrêter parce qu'il y a beaucoup d'images. Je crois que même le film n'est même pas terminé, qu'ils ont fait trailer pour lancer un peu.
Un quart, ils ont fait un trailer.
Ouais, c'est fou ça.
Donc, je suis pas emballée par ça. Je préfère ne rien voir.
Tu vois, ce qui était. Là, tu parlais de Tenet à l'instant. Ce qui était bien avec Tenet, c'est que même si tu voyais la bande-annonce, ça te spoilait pas le film, forcément, quoi. C'est pas mal.
Guillaume a même assisté à une avant de le voir pour la première fois, a même assisté à une
conférence,
une sorte de conférence qui balançait plein de spoils. Et malgré ça, t'as pas été spoilé.
Mais non, parce qu'il fait une conférence avec des gens très bien avant le film. Et je dis je peux venir. Il fait oui, mais par contre c'est comment on dit une pré-séance, comment on dit
une après-première.
Après-première. Et du coup, tu vas avoir plein de spoils. Mais c'est pas grave, je viens de voir, c'est cool, tu vois. Et du coup, je me disais, c'est pas grave, au pire. Franchement.
T'as tellement rien compris.
Franchement, j'ai rien compris. Tu sais, il parlait du film, mais si tu l'as pas vu, j'étais là. Ça m'a rien spoilé, bravo.
Ok. Alors, dans ce film, il y a un acteur que j'aime beaucoup, c'est Alec Baldwin. Et en préparant cet épisode, je me suis dit, comme à chaque fois que je pense à lui, qu'il est quand même assez sous-côté, car c'est un formidable acteur. Alors, je vais en profiter pour tester vos connaissances niveau Alec Baldwin en vous faisant un quiz filmographie, ce qui nous permettra de revenir sur sa riche carrière.
Je vais probablement perdre.
Les frères Baldwin.
Donc, ça va être un petit quiz où je vais vous faire deviner. Il faut trouver le film dans lequel joue Alec Baldwin.
Film juste.
Juste le film. Ah. On cherche un film à chaque fois. Donc finalement, c'est pas centré sur Alec Baldwin, ça peut être n'importe quel autre acteur, mais on cherche des films dans lesquels il a joué, et ça nous permet de revenir un peu sur sa filmographie et se rendre compte qu'il a joué dans des super films. On aime bien ici Alec Baldwin ou pas?
Oui.
Ouais. Moi, je l'aime bien.
Moi, je l'aime bien. Hein. J'adore Alec
Baldwin. Très bien. On cherche un film sorti en 1999 et produit par Universal Pictures.
Ok.
Non, j'arrête de parler anglais parce que là, du coup, c'est bien relou. Long métrage réalisé par Roger Mitchell. Je compte la présence de Reese Ifans, Hugh Grant et Julia Roberts. Ça fait un zéro pour Aurélien.
Putain, pourquoi j'allais dire 4 matchs à l'enterrement? N'importe quoi, je voulais dire coup de fouet à Notting Hill.
Gros fouet à
Notting Hill.
Je voulais dire coup de foudre à Notting Hill.
Coup de fouet à Notting Hill, c'est pas du tout le même film.
Ah, c'est pas le même film?
Coup de fouet à Notting Hill.
Je me disais aussi, il est chelou.
Avec Bruce Lee, Jackie Chan.
Mais c'est vrai que moi-même, en préparant le quiz, j'avais oublié qu'il avait joué dans Coup de fouet à Notting Hill.
Il est horrible.
À la fin, j'ai complètement zappé.
Il joue son propre rôle. Il joue le petit ami de Julia Roberts.
Ouais, c'est ça.
Un moment, Hugh Grant veut parler à Julia Roberts et en fait, en essayant de la reconquérir, et il se rend compte que dans la chambre d'hôtel, il y a Alec Baldwin et Alec Baldwin le prend pour un serveur, il lui parle trop mal et du coup, il se barre.
Oh, t'en souviens pas? Je ne me rappelais
pas ça. Non. Et ben, il joue son propre rôle.
C'est une des meilleures séquences.
Ouais,
avec Chasse à court.
Ok, deuxième film, 1-0 pour Aurélien. Film sorti en 1988. Je suis une comédie romantique, mais pas que, produite par la 20th Century Fox. Pas que, car c'est également un film important sur la condition de la femme dans le monde du travail. À la réalisation, Mike Nichols.
Ah.
J'ai un casting 5 étoiles avec John Cusack, Melanie Griffith, Harrison Ford et Sigourney Weaver.
Oui, bah oui, bah...
Mon intrigue se déroule à New York. Je suis...
Comment il s'appelle ce film? Je vois très bien.
Alors, oui, je sais que tu vois. Tu galères de ouf.
Ben Garry
Ross. Exactement, c'est la musique du film.
Oui, je sais.
Et bah, t'as 0,2 points pour ça.
Merci.
Pour avoir la musique. Et c'est Working Girl.
Working Girl, putain.
Bah, oui, Working Girl, dans lequel il a joué. Il joue dans le film Le petit ami pas très sympa de Melanie Griffith.
0,2.
T'as 0,2. Ça fait 1 point pour rien.
C'est 0, nul, comme
ça. Ça peut monter parfois. Quand t'as égalité, t'as 1,2 à la fin.
C'est 0, donc
au-dessus,
déjà.
C'est vrai. T'as
2. Ça fait 2 fois qu'il joue Les petits amis pas sympas, par contre.
Ah oui, c'est vrai.
C'est moche.
Je vais mettre quand même la feuille. Comme ça,
ah, t'as cru. Mais non,
c'est quand même 2 fois que je vois les réponses. Ouais, bon, ok. On cherche cette fois un film sorti en 2004, plus proche. Comédie romantique, pas mal axée sur la comédie tout court. Produit par Universal Studios, la réalisation est de John Hamburg. Dans ce film au budget de 42 millions de dollars, on compte la présence de Philip Seymour Hoffman, Ben Stiller.
Oh, oui.
Et Jennifer Aniston.
La rupture. Non, pas la rupture.
Je suis. Florier presque.
Oh là là,
c'est terrible. Polly et moi, c'est
oui,
là. Bah, c'est terrible.
Oh,
ah, c'est terrible, Flore.
C'est une blague.
C'est terrible, Flore. Ça fait 2 points pour rien qu'il a le balancé très tranquille.
Toi, tu dis, elle y est presque, elle a dit la rupture, aucun rapport.
Non, mais je voyais qu'elle le voyait.
La rupture, elle y est presque. Polly et moi.
Ouais,
il y a un
paix,
quoi.
Tu pensais à Polly et moi ou pas?
Oui, bien sûr, j'avais l'affiche en tête et tout.
Mais t'as 0,1 du coup. Parce que t'y pensais.
Je me rappelle.
0,1, la musique, c'est 0,2. Petit barème quand même.
Exactement. Ça fait donc 2 points pour Aurélien, 0,1, 0,2 là-bas. C'est reparti, film de 2001, produit par Touchstone Pictures. C'est très dur à dire ça, Touchstone Pictures. T'arrives à le dire, Flore?
Ah, pas du tout.
Vas-y.
Touchstone.
Ouais, d'accord. Okay. Aurélien, t'arrives à le dire ou pas?
Touchstone.
Ouais, d'accord, pas ça. Voilà. Touchstone Pictures. Non, il n'y a même pas de S, putain. Touchstone. Bon, allez. J'ai toujours galéré à dire ce nom, c'est pas grave. En 2001, une comédie réalisée par un type, donc je peux pas vous dire le nom, sinon c'est tout de suite trop facile, le nom du réalisateur.
2001.
Par contre, je vais vous énumérer le casting et vous allez voir, il est impressionnant. Seymour Cassel, Danny Glover, Bill Murray, Owen Wilson, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Gene Hackman.
Ah, mais c'est un film de Wes Anderson, non?
Oh là là. Oh, il est proche. Angelica Houston et Luke Wilson. Film réalisé par Wes Anderson, je suis...
La famille Tannenbaum.
Oh là là. C'est comme, faut le voir comme un vautour. Un vautour autour des proies qui laissent des indices. Ouais, t'as 0,1, t'as vu l'affiche. Là, 0,2, ça fait du coup. Reviens à hauteur de Guillaume.
Bah oui,
c'est un film de Wes Anderson.
Réalisateur.
0,1 point. 0,2, et 3 points. Tu t'échappes, Aurélien, bravo. Aurélien, c'est effectivement la famille Tannenbaum et Alec Baldwin joue dedans le narrateur. Voilà.
Ah.
Ouais, c'est un petit piège. Film de 2006, produit par Warner Bros. Je suis un thriller et un film policier au choix. La musique est de Howard Shore et le casting est encore une fois extraordinaire.
Les Infiltrés.
Oh là là, là c'est beau. Voilà. C'est
c'était
beau.
Obligé. Ça, film beau, policier.
Ça, c'est beau, les infiltrés. Ah ouais, la sortie cache, là. Là, ça fait un point.
Là, ça fait plus d'un point. Cache comme ça.
J'avais l'orthographe en tête. Du mot infiltré. Ça marche, j'ai gagné 0,1.
Ouais, non. Tu restes à 0,2. Ça fait 1,2 pour Fleur.
Voilà. Bravo.
Et reviens un peu sur Aurélien. Oui, casting extraordinaire, parce qu'il y a Vera Farmiga, Martin Sheen, Mark Wahlberg, Jack Nicholson, Matt Damon et Leonardo DiCaprio. Aïe, aïe.
J'adore ce film.
Remake d'un film hongkongais réalisé par Martin Scorsese. Je suis... Les infiltrés.
The
et
Departed.
Exactement. Et dedans, il joue le chef de police, ouais. Un chef de police du Massachusetts.
Ah.
Super film. On retourne dans les 90s, plus précisément en 1990, avec un thriller slash film de guerre. Musique de Basil Poledouris, à qui l'on doit entre autres la formidable bande-son de Robocop.
Éconnant.
Je suis produit par la Paramount Pictures et compte à la photographie le futur réalisateur Yann de Bont. Grosse équipe. Au niveau des acteurs, c'est pas mal non plus. Sam Neill ou encore Sean Connery. Film réalisé par John McTiernan.
Ah.
Je suis John McTiernan, réalisation Sean Connery.
C'est quoi l'année?
Casting, c'est 1990.
Poursuite d'Octobre Rouge.
Oh, c'est là il l'a balancé tranquille,
oh là
hein
là.
Oh là là, il était pas sûr de lui, mais il l'a balancé.
C'est l'évidence.
Avec la tête un peu baissée.
Ça devient très serré parce qu'il reste 3 films et t'as 1,2.
Allez, 1,2. En plus, j'ai jamais vu ce film, je vois juste l'affiche.
Ah, ben je l'ai. Ah, t'as envie de te rajouter des 0,2.
Ouais, bon.
Ok. On passe des années 90 à une époque beaucoup plus récente, puisqu'on est cette fois en 2018,
oula,
dans un film à gros budget, 178 millions de dollars, produit par la Paramount. À l'affiche, Simon Pegg, Henry Cavill, réalisé par Christopher McQuarrie, avec comme star principale
Mission
Tom Cruise.
Mission Impossible 8.
Joli.
Non.
Fallout.
Bien, ouais.
Le combien d'accord.
32, on s'arrête
ouais,
là.
Ouais, 7, 8.
Il joue le secrétaire 6, de la défense, bravo. 6. Ça fait 4.
Je sais pas si c'est le 6 ou le 8 ou le 4.
Ouais,
c'est Simon Pegg et Henry Cavill.
Exactement. Ça fait 4,
j'ai fait,
4 pour toi 4 points
peut-être.
1,2, bon, il se dirige à la victoire. Hein. Mais il peut y avoir un kit ou double sur la dernière saison. Il peut y avoir un kit ou
double.
On reste dans les années 2010, cette fois en 2013, avec un film produit par Perdido Productions. Dans ce film, il y a Louis C.K., figurez-vous, à l'époque où il joue encore dans des films, mais aussi Peter Sarsgaard, Bobby Cannavale ou encore Cate Blanchett. Réalisé par Woody Allen, je suis...
Ah.
Film de Woody Allen, réalisé en 2010 avec Alec Baldwin dans un des rôles principaux. Il joue le mari de Cate Blanchett.
Oh, ouais, mais non, mais le...
Ah.
Attends, non?
Non, bah non, bah tu nous as donné beaucoup d'espoir sur ton intervention.
C'est un nom à la con.
Il y a une couleur, il y a le nom d'une couleur dans le
ouais,
titre.
Ouais, ça, c'est Blue Velvet, non, Blue quelque chose.
C'est Blue,
Blue Jasmine.
C'est Blue Jasmine, bravo,
ah,
ouais. Ça fait 5 points. Il est ouais, fort, il est très
ouais,
chaud.
Il
est très chaud à ce quiz aujourd'hui. Et alors, dans
je
le film...
Je fais par association d'idées, je vois les affiches.
Bon, Blue. Alors, je tiens à dire que pour le dixième, j'avais mis mon film préféré d'Alec Baldwin, qui est Glengarry Glen Ross, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, je vais pas le mettre. Mais super film, si vous avez jamais vu Glengarry Glen Ross, c'est extraordinaire. Il y a une scène culte avec Alec Baldwin. Qui tout double ? Celui qui répond là a gagné le quiz.
Wow.
Oh my god.
Désolé Aurélien.
C'était bien la peine de se la péter.
Mais voilà.
Ça vient à rien.
Celui qui répond maintenant est le grand gagnant de ce quiz. 2004. Warner Bros. Et Miramax aux manettes. La musique est de Howard Shore, encore une fois, mais aussi Jerry Goldsmith. Quelle équipe ! Figurez-vous que dans ce film, il y a le chanteur Rufus Wainwright, mais également Willem Dafoe et une autre chanteuse, Gwen Stefani. Surprenant !
Oh !
Il y a également John C. Reilly, qu'on adore tous. Jude Law.
Aviator.
Oh, c'est lui qui gagne là-bas, Aviator ! Oh, bravo, le grand gagnant du quiz ! Tout le monde est dégoûté autour de la table, mais il a gagné !
La foule est en délire, un bruit de foule en délire, s'il vous plaît.
Allez. J'ai gagné, là ! Mais t'as gagné.
Tu sais pourquoi ?
Mais là, tout le monde était dégoûté autour, mais t'as gagné.
Tu sais pourquoi ? Tu sais comment j'ai trouvé ? Avec Gwen Stefani.
Ah ouais?
Parce que j'avais fait une rubrique, pour ceux qui ont suivi les podcasts, sur les chanteuses qui avaient eu des rôles au cinéma.
Et, bah,
et le seul rôle
sert.
De Gwen Stefani au cinéma, c'était Aviator.
Et bah ça sert.
Voilà,
il y avait également
Kate
Beckinsale, Kate Blanchett et DiCaprio.
Voilà.
Par contre, j'ai bien noté Aviator. Le Jude Law. Ouais.
Ah, je dis Jude Law?
Oui, Jude Law. Jude. j'ai tiqué sur le Jude.
Ouais, Jude. Ouais, c'est vrai que t'as plus de succès en soirée si on t'appelle Jude que Jude.
Jude.
Ouais,
ah, Jude.
Non, tu dis Jude Law toi aussi
Moi je dis que j'ai gagné le coup sur tout ça. Après,
on peut l'applaudir quand même.
Ah, ouais, voilà,
on peut
ouais.
applaudir Aurélien et aussi Fleur qu'on a tous marqué des points.
Heureusement, parce que
sinon
la honte.
Pas mal.
Alors Guillaume, la musique de Beetlejuice est composée par le talentueux Danny Elfman, collaborateur récurrent de Tim Burton. Mais musicalement, il y a un titre qui par-dessus tout est désormais associé à tout jamais au film. C'est Day O de Harry Belafonte. Extrait.
Work all night and I drink a rum.
Daylight come and we want to.
Quelle est l'histoire de ce titre culte, Guillaume ?
Eh ben en effet, titre culte pour scène culte 2 minutes 30, entrée dans la légende du cinéma grâce à cette chanson D.O. The Banana Boat Song, interprétée par Harry Belafonte et enregistrée en 1956 sur son album Calypso. Titre de l'album qui en a fait une référence de ce style, alors qu'à la base, c'est une reprise d'un titre populaire de Mento, jamaïcain, sorti en 52. Le Mento est une sorte de blues de la Jamaïque, style de musique créé par les paysans, à l'origine du reggae et du ska. On y parle des dures journées de labeur et de la condition des travailleurs, comme dans la première version donc de Deho, intitulée Deda Light, et interprétée par Edric Connor and the Caribbeans.
Six and seven and eight and a bunch.
Version moins rythmée et presque plus dramatique, mais tout aussi belle. Il faut attendre donc la version d'Harry Belafonte et les paroles réécrites pour l'occasion pour que le Banana Boat Song rencontre le succès, puisqu'elle se glisse 5e au Billboard en 1957 et accessoirement le plus gros succès commercial d'Harry Belafonte. Et évidemment, Beetlejuice n'est pas étranger à ceci. Et là, vous allez me dire, mais comment cette chanson s'est-elle retrouvée dans le film ?
J'allais pas le dire, perso.
Allez-y, dites-le.
Mais comment cette chanson s'est retrouvée dans le film ?
Eh ben, très bonne question, merci de me la poser, car sur cette scène du dîner, un tout autre style de musique était prévu. Dans le script d'origine, ce n'était pas du tout une scène de danse. Les convives se retrouvaient attachés à leur chaise par des esprits malveillants. À la base, Tim Burton avait en tête un morceau plutôt doo-wop du groupe Les Ink Spots, un groupe de doo-wop des années 30.
If I didn't care, more than words can say.
Beaucoup moins marrant, du coup.
Ouais, c'est une toute autre ambiance.
Toute autre ambiance, mais le tout manquait de rythme. Effectivement, on peut le comprendre. Et Catherine O'Hara qui a proposé c'est Catherine O'Hara qui a proposé un morceau de Calypso, appuyé par Jeffrey Jones à l'époque, qui suggéra Harry Belafonte. La production a acquis les droits des morceaux de Belafonte. Il y en a 4 dans le film, si vous écoutez bien. Et la scène se transforma en scène de chorégraphie. Petite info tabzienne, il a fallu 5 jours pour la tournée. Pas seulement pour que tout le monde soit bien synchro, mais pour réaliser les effets spéciaux des crevettes. Et vous le disiez au début, c'est que du bric-à-brac, les crevettes, elles n'arrêtaient pas de tomber, et ils ont finalement opté pour des animateurs cachés sous la table avec des crevettes au bout des gants. Animateurs qui n'arrivaient jamais à mettre la main sur le visage des convives pour les attirer dans leur assiette, et du coup, ils ont tourné la scène à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ont mis la main sur le visage et après ils les ont attirés dans l'assiette. Et on le voit, quand on le sait, on peut deviner un peu que c'est à l'envers, parce que le mouvement est bizarre. Mais revenons à la musique. Jusqu'au bout, Tim Burton ne croyait pas vraiment à cette scène, hésitant à la retirer, ne la trouvant pas assez drôle et aussi drôle que prévu. Il a dû attendre les projections test pour comprendre que c'était en réalité un succès. Scène qui est désormais devenue culte et qui est inséparable de la chanson. Chanson dont on retrouve les paroles au tout début du générique en ouverture du film. C'est les premières paroles qu'on entend. Chanson tellement indissociable du film que Glenn Shaddix, qui joue Otto dans le film, a exigé qu'elle soit jouée à son enterrement, et ce fut le cas en 2010. La chanson a depuis eu moult versions et reprises, par exemple en disco par Claudia Barry en 1980. Toute autre ambiance, évidemment, en disco ça fait vraiment la différence, ou alors parodiée par l'humoriste américain Stan Freberg en 1957. Écoutez bien, c'est assez drôle, ça commence pareil, mais la suite est différente.
I'll have to ask you not to shout like that.
Well,
it's like right in my ear, man.
Well, it goes with the song.
Yeah, but don't holler in my ear,
well,
man.
Well, it's authentic calypso.
Yeah, but like
shout.
I stand next to me, man.
Well, the shout goes with the bongo drums.
Well, not my bongo drums.
Et en fait, tout le sketch, c'est un genre de bongo, et à chaque fois, il est à côté du chanteur, il fait « Mec, par contre, il faut que tu chantes moins fort, quoi, t'es vraiment à côté de moi et tout. » C'est assez cool. En français, on a aussi repris la chanson avec Dario Moreno ou encore les compagnons de la chanson en 1957, qui ont fait une version un peu à leur sauce.
Cette version aussi, elle a été chantée par un autre français qui s'appelle John Williams,
ouais,
qui était très cool également.
En effet, mais après les versions, il y en a vraiment des centaines, quoi, mais il y a une version qui est connue aussi en 2011, et ça va faire plaisir à Nemo, parce qu'il adore le rap. Ben ouais. Nemo, il a samplé cette chanson. Nemo, pas Nemo. Lil Wayne, il a samplé cette chanson en 2011. Écoutez ça. On est vraiment très loin des compagnons de la chanson. En fait, ça saute de style en style. Il y a encore Shaggy qui l'a repris, ou Sébastien le crabe de la petite sirène sur son album de reprise.
Come Mr. Tallyman, tally me banana. Come on Ariel, you sing with me.
Après, il chante avec Ariel et tout. Il dit Ariel, vas-y, chante avec moi.
Mais du coup, c'est Elise Moon qui chante en français ou pas? Parce que c'est pas Elise Moon qui
chante en français. C'est peut-être Elise Moon qui chante en français. En tout cas, ça m'a appris que Sébastien le crabe de la petite sirène avait sorti un album. Je le savais pas. Mais bon, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Une petite version très énervée du groupe de punk Oi The Business dans les années 80 qui a repris cette chanson aussi.
C'est trop les musiques quand t'es dans une friperie à Paris. Il y a ça en fond.
Tu vois, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, pas mal pour une chanson de Mento, partie des chants de la Jamaïque, qui s'est retrouvée à voguer à tout jamais dans les océans de la pop culture grâce à Harry Belafonte. Bravo Harry Belafonte.
Trop bien, bravo Guillaume. D'ailleurs, pour compléter ta chronique, au tout début du film, quand Beetlejuice démarre, on voit le logo de Geffen Pictures.
Ouais, exactement.
Et on entend un type qui fait « Deo » comme ça derrière. Et bien, figurez-vous que c'est Danny Elfman, le compositeur de la musique du film. C'est lui qui s'est amusé à crier ça dans le micro. Et le film commence avec la voix de Danny Elfman.
Mais tu vois, c'est fou quand on sait tout ça. C'est que tous ces titres de Calypso, ils ont été rajoutés dans cette idée. Après la scène du démo, ils se sont dit « Attends, on devrait mettre du Calypso, on va acheter les droits d'Harry Belafonte, etc. Ouais. » Mais je trouve que quand on a revu le film ce matin, tu sais, sans ça... Tu sais, ça perd une identité de ouf, Beetlejuice, quoi. Ce délire de... Ça rajoute de l'absurde à tout le reste, quoi. Ouais. De mettre du calypso sur des scènes bizarres comme ça, c'est trop bien.
Mais c'est vrai que ça aurait moins fonctionné. Je me demande à quoi ressemblait la scène si ça avait été Inkspot.
Je pense que c'était pas du tout... Je pense que c'était moins comique, en fait, à la base.
Bah ouais, parce que toutes les scènes, il y a de la comédie partout, quoi. Même dans cette scène-là où il danse et tout. J'imagine pas quelque chose de mou, quoi.
Ouais, c'est ça. Et la scène de fin où Winona Ryder, elle s'envole, etc.
Si vous devez retenir une scène de Beetlejuice, c'est celle-là ou il y en a une autre Si on jouait en en trouvant une autre. Parce que moi, en vrai, c'est cette scène qui me reste, en fait.
Cette scène, c'est sûr. Mais ce matin, en le revoyant, il y a une scène que je trouve vraiment cool et drôle, c'est quand Winona Ryder s'adresse à Beetlejuice et qu'il est encore petit, et qu'il lui dit « Ouais, faut que tu dises mon nom trois fois, s'il te plaît, etc. » machin, tu vois. Et il dit « Mais moi, je peux pas le dire, mon nom. » Du coup, il essaie de lui faire comprendre. Et donc, il fait « Retends-toi, regarde derrière toi. » Il y a un cafard dans une chaise. Et il fait « Aïe !» Et après, elle dit « Ouais, et pour lui faire deviner le jus, il y a juste un Minute Maid qui se verse dans un... » Je pense que c'est un sponsoring, quoi. Un Minute Maid qui se verse dans un verre, qui vole et tout. C'est bien absurde, je trouvais ça pas mal.
Elle met 3 heures, d'ailleurs, à comprendre que c'est juste, j'avais compris. Ouais, là, genre, oui, alors...
Beetlejuice,
ça veut rien dire, tu dis ça dure des plombs. Bah, ça va, Beetlejuice, tout le monde sait.
Moi, je me souviens, quand j'étais petit, il y avait une scène qui me fascinait. C'était celle où Gina Davis et Alec Baldwin, en tout cas leur personnage, dessinent à la craie une poignée de porte.
Mmh. Ah ouais.
Je trouvais ça fou, parce que je me disais, attends, est-ce que c'est possible de faire ça en vrai? J'avais genre 7-8 ans, quoi, tu vois. Ouais. Et je trouvais ça fascinant. Mais en fait, je me rends compte en revoyant Beetlejuice qu'il y a pas mal de scènes cultes. On pourrait en citer genre 10, tu vois.
Ah bah ouais,
9, 10.
Dans l'au-delà, là, qui sont en file d'attente, qui a un numéro de 9 millions, je sais pas quoi. C'est quand même exceptionnel.
C'est
chacun a une mort un peu particulière. Et puis la nana de l'accueil aussi. Je trouve ça assez stylé, moi. Ouais.
Bah, figure-toi, Flore, que tu me lances très bien sur la question d'après.
Oh, mais écoute, c'était volontaire. Hein, bah,
bravo. Beetlejuice, ça traite quand même d'un sujet qui est rarement traité au cinéma. C'est la vie après la mort. Est-ce qu'il y a une vie après la mort ou pas? Est-ce que vous y croyez à ça? Genre dans une question un peu comme ça, un peu psychique. Est-ce que tu crois à la vie après la mort, Guillaume?
Non.
Non? Donc pour toi...
Fin du sujet, allez, on passe à... Non, mais...
Donc pour toi, on appuie sur un bouton off et puis terminé.
Non, mais ce truc de la vie après la mort, imagé, genre on reste dans nos corps et on vogue dans les trucs et on peut faire des blagues avec les portes et tout, bon... J'y crois pas vraiment.
Toi, tu ferais des blagues, toi. Premier truc que tu fais.
Moi, par contre, je fais vraiment des blagues.
Tu sonnes à la porte des gens, tu pars en courant et tout. Okay.
Mais non, mais je crois aux énergies qui restent, par contre, dans les pièces.
C'est-à-dire?
Moi, je suis persuadé que s'il y a, c'est marrant parce que bon, je travaille le week-end dans une salle parisienne qui s'appelle le Divan du Monde et on parlait des fantômes de là-bas. Et on se disait, je crois aux énergies qui restent dans les pièces, c'est-à-dire apparemment au niveau du vestiaire de cette salle, il y a à l'époque une fille qui s'est défenestrée, mais avant que ce soit cette salle de cabaret, etc. Et en fait, il y a une très mauvaise énergie dans cette pièce.
Quand tu la ressens, cette mauvaise énergie?
Moi, je la ressens pas, j'en parlais pas forcément, mais c'est les serveuses qui m'ont dit « Non, mais c'est horrible, quand on va là-bas, la dernière fois, il y a une fille qui disait « Moi, j'ai fermé toute seule, et j'étais en bas, et j'ai entendu une chaise bouger, comme si quelqu'un la tirait, sauf que j'étais toute seule dans l'endroit. » Je dis « Mais t'es monté voir ?» Elle fait « Non, pas du tout, je suis parti. »
Pas du tout, je suis enfui en courant.
Je pense qu'il y a des... Ou tu sais, quand on te dit « Est-ce que t'achèterais l'appartement de quelqu'un qui s'est pendu, tu vois ?» Si tu le sais.
Alors,
Tu vois, parce que tu dis attends, il y a quand même une énergie bizarre, tu vois. Comme dans Conjuring un peu, tu vois.
J'avais une discussion avec des amis un jour, on se disait, mettons la maison de tes rêves, d'accord, une villa, etc., vraiment belle. On te la donne, mais on t'apprend également que dans cette maison, il y a eu des terribles meurtres dans la chambre, dans le salon, etc. Tout est clean désormais. Est-ce que tu vis dedans? Moi, je serais pas capable de vivre dedans, par exemple, sachant que là où je dors, il y a eu un terrible meurtre. Tu pourrais, toi, Flore, par exemple?
Non, pas du tout.
Ouais,
pas
voilà.
Du
tout. Il y en a qui ont pas de pression avec ça. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme parfois, tu regardes, fais entrer l'accusé. Et il y a eu des horribles meurtres dans une maison et tu te rends compte que bah il y a des nouveaux habitants dedans et tout. Mmh. Je serais pas capable de
mais
faire
ça. Ils le savent peut-être pas aussi.
Bah si, t'es obligé de le dire maintenant, je crois, quand t'es genre quand t'es agent immobilier, t'es obligé de dire qu'il y a eu un meurtre ou un truc comme ça.
Très mauvaise pub pour la maison.
Bah oui.
Alors elle est géniale, elle est pas chère, mais par contre.
Ah, ah, donc, il y a eu un pendu. Il y a eu un pendu, mais elle est exposée plein sud.
Donc c'est pas négligeable.
Il est mort dans de très bonnes conditions, très bon feng shui.
Vu sur la mer, c'était tranquille.
Donc tu crois pas à la vie après la mort, mais tu crois aux énergies.
Ouais, ouais, mais qu'est-ce que t'appelles la vie après la mort? C'est ça aussi?
Non, mais en fait, personne n'a la réponse, mais il y en a beaucoup qui pensent que. Enfin, il y a plein de trucs, il y a des gens qui pensent à la réincarnation, ce genre de trucs, etc. Moi, je pense que c'est juste comme avant de naître, j'imagine. Dans les années 70, il s'est passé plein de trucs, mais j'étais pas là. Et dans les années 2100, il se passera plein de trucs, je serai pas là, tu vois. Enfin, je sais pas, je vois les choses de manière très.
Ouais, tu vas mourir et puis c'est tout.
Bah, c'est terrible, tu vois.
Mangé par des vers.
Bah, c'est terrible. Mais pour vrai, en fait, quand j'étais petit, je me disais, je pensais que la mort plus tard, ce serait. La fin du psychisme, mais en gros, ton corps ne peut plus bouger, mais ta conscience que t'es encore là, tu vois. Par exemple, on te met dans une tombe, tes membres ne peuvent plus bouger parce que t'es mort, mais tu peux pas crier, et donc tu restes là à vie éternellement, tu vois. C'est terrible ce truc. Quand j'étais petit, je pensais à ça.
Et tu veux même pas faire des blagues parce que t'es tout seul.
Bah non.
Bah ouais.
Mais
horrible.
Je t'en avais parlé un jour, en fait, il y avait un docu un jour que j'avais vu sur Paris Première où en gros, c'est des gens qui rouvraient des tombes, et on se rendait compte que dans les tombes, il y avait des griffures dans le cercueil. C'est-à-dire que c'est possible d'être diagnostiqué mort, mais en fait, un ou deux jours après, on se réveille parce que, enfin, il y a un terme, ça, je suis vraiment nul en médecine. Mais c'est possible de penser qu'on est mort et en fait, on n'est pas mort. Et un jour après ou deux jours après, on se réveille parce que ton corps, il est en état de mort cérébrale, en tout cas, ça, ouais, de choc, je sais pas. Et en fait, t'es pas mort, tu vois. Et donc, à l'époque, il y avait un truc au Moyen-Âge où il y avait des sonnettes.
Voilà.
Tu savais ça ou pas?
Non.
En fait, il y avait des sonnettes, et en fait, il y avait une sonnette dans ton cercueil et tu pouvais l'activer.
Mais
si
c'est dans quel film d'horreur, ça, où il y a des cloches à côté des tombes?
Eh ben, c'est issu d'une vraie, d'un vrai truc qui s'est passé au Moyen-Âge où.
Ah oui, parce que ça va
dans un
ça.
Film, ça.
Mais j'ai vu ça récemment. Où ils sont dans un cimetière et t'entends des cloches. C'est grave, ils sont pas morts. Je sais pas quoi.
Non, c'est pas dans la Dame Blanche, un truc comme ça?
Je sais plus, franchement, je m'en
rappelle. Mais c'est vrai que je l'ai vu dans un film
d'horreur. Je m'en rappelle aussi, ça me parle
ce que
tu dis.
Enfin, tout ça pour dire.
Il y a vraiment eu un cas.
Regarde, tu te balades dans un cimetière, ok?
Ça sonne la cloche. Ouais. Sérieux?
T'es tout seul dans un cimetière, ok?
Bah, j'y vais pas.
T'entends une cloche dans un tombeau? Bah, jamais j'y vais, en fait. Tant pis. Excuse-moi, mec, mais c'est trop flippant.
Je vais gérer le soir avec une cloche, tu vois.
Mais non, c'est pour ça que si je meurs plus tard, dans mon testament, je veux qu'il y ait un paquet de chips. Une Game Boy, une petite lumière, un téléphone portable. Comme ça, je peux attendre tranquille qu'on vienne me chercher, tu vois. Enfin, toi, non, je peux pas compter sur toi, parce qu'apparemment, quand on sonne la cloche,
ça fait trop peur.
Ouais, c'est vrai que ça fait peur, Guillaume, t'as raison. Alors, est-ce que tu crois à la vie après la mort, toi, Flore?
Non, parce que pour moi, c'est une réaction un peu au niveau du cerveau, tout ça. Enfin, c'est un peu une réaction au cerveau. Donc, au bout d'un moment où le cerveau est plus alimenté, il n'y a plus de vie dans le corps, pour moi, le cerveau, après, il fonctionne plus. Donc, pour moi, c'est un peu comme quand on s'endort. On sent pas que ça arrive, on s'endort, et puis c'est quand on se réveille qu'on se dit « Ah, j'ai dormi !» Mais sinon...
Donc du coup, tu ne crois pas aux fantômes?
Tu me mets dans le noir dans une maison fermée, au milieu de nulle part, je te dirais...
Tu sais que c'est drôle, parce que par exemple, mon grand-père, j'ai une maison en Normandie qui fait un peu peur, tu vois, au milieu des champs, il n'y a personne autour et tout, et mon grand-père, il pouvait dormir tranquille dedans, ils s'en foutaient, quoi. Alors que moi, je suis pas trop capable, malgré mes 37 ans, je suis pas trop capable de dormir dedans, quoi, tu vois. Donc toi, t'as un peu peur quand même des potentiels fantômes.
Ah bah oui, moi tu mets devant Paranormal Activity, j'ai les mains sur le visage, je me cache, je flippe à mort, mais j'adore les films comme ça, j'adore les trucs de fantômes, mais oui, en fait, si j'y pense pas aux fantômes, j'aurais pas peur. Mais si je commence à me dire, ah tiens, la maison elle est vide, tiens, s'il y avait un fantôme qui traîne ou quoi, là je pourrais commencer à flipper, ouais.
Moi je trouve bizarrement, j'ai plus peur de l'être humain que des fantômes, tu vois, me dire qu'il y a un ouf qui arrive dans la maison.
Ah
quoi,
oui, c'est plus plausible quand même.
Chien de paille, Stray Dogs là, tu sais, les mecs qui viennent et tout, ils vont tuer tout le monde. Ah
non, c'est l'ambiance. Toi, tu crois alors ou pas?
À la vie après la mort?
Bah, en fait, les deux se rejoignent, la vie entre la mort et les fantômes. La vie après la mort et les fantômes.
Ah. Non.
Non?
Si, je pense que tu continues à vivre, mais dans la tête des autres. Mais toi, après, c'est fini. Hein.
C'est beau ce que tu viens de dire.
Mais surtout, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des fantômes de chiens? Des fantômes de chats?
Et après, ce que je disais dans Video Store, des fantômes.
Ça n'a pas de sens.
Il y a fantômes de moustiques.
Ça veut dire qu'ils ont un temps sur Terre, ça veut dire qu'il y a encore le fantôme de Napoléon, là, qui se balade. Qu'est-ce qu'on raconte, en fait?
Ça serait surpeuplé de fous, t'imagines? Mais tous les gens qui sont morts, ils sont encore là.
Ah oui,
ils sont où? Ils sont.
Tu sais, je pensais déjà à ça. je me dis depuis le début de l'histoire humaine. J'ai regardé sur Google, il y a eu des milliards et des milliards de morts. Et ils sont où tous? Les corps, tu vois?
Ah, ils sont dans la terre.
Mais non, mais il n'y a plus de place, c'est fini. Il y a eu des milliards et des milliards
mais
de morts.
La terre, elle a consommé. C'est comme oui, du compost.
Commence pas à prendre pour un idiot, Guillaume. Bah non, mais... Je sais très bien de quoi je parle.
Ouais,
il y a des milliards de morts en dessous nous et personne
parfois,
n'en parle.
Parfois, tu meurs et en fait, comme t'es pas mort, t'as une sonnette. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est une sorte de mort cérébrale.
Je sais très bien de quoi je parle. Oui, d'accord.
tu tapes sonnette tombe sur Google. jeuxvideo.com, le forum, t'auras plein d'infos. t'auras plein d'infos croustillantes.
Il y a déjà un mec qui a sonné. Moi, je voudrais bien avoir un mec qui était là dans sa tombe et qui a dit « Ouais, j'ai utilisé la sonnette, on est venu me chercher. »
Très bonne anecdote en soirée, par contre, après.
Mais alors, attends, non, mais il y a un vrai truc, c'est que tous les gens ils sont morts et après ils sont revenus, mais dans les hôpitaux, genre mort clinique, dans le coma et ils reviennent. Ils ont tous dit la même chose, le truc de la lumière, le truc de...
Oui, c'est vrai.
Ils disent la même chose. Ils ont vu leur corps.
Ils se sont vus dans la pièce. Mm-hmm. Très bizarre.
Oui, c'est vrai que c'est bizarre.
Effectivement. C'était mon analyse.
Et pourtant, il n'y avait pas de sonnette dans la chambre de l'hôpital.
Mais c'est vrai, t'as raison. Mais il y a de quoi écrire un livre avec ça, avec hein, ta petite analyse.
On va pas aller loin, toi et moi.
On trouve ça très bizarre.
C'est le titre du livre qui est aussi le livre, en vrai. C'est bientôt la fin de ce podcast, déjà. Non. Mais avant de se quitter, quelques infos croustillantes sur Beetlejuice.
Ah.
Figurez-vous que le premier choix pour incarner le personnage de Beetlejuice, c'était le chanteur Sammy Davis Jr., dont Tim Burton est fan. Et à la place de Catherine O'Hara, que l'on retrouve dans Maman, j'ai raté l'avion, était envisagé Angelica Houston. Et quand on repense à son rôle dans La famille Addams, il est aisé de l'imaginer dans Beetlejuice. Le film s'appelle Beetlejuice, mais au final, on le voit seulement 17 minutes sur 92 à l'écran. Même phénomène pour Jurassic Park, car dans le fond, on voit pas tant que ça les dinosaures dans le film. Et il apparaît, je crois, Beetlejuice au bout de 25 minutes seulement.
Ouais. Donc il je crois qu'ils ont placé une scène où il est de dos, où il lit la rubrique nécrologique. Et en fait, apparemment, c'est une scène rajoutée. C'est-à-dire que quand ils ont montré le film en test, beaucoup de gens ont dit, mais on le voit pas assez, quoi. Mm. Et on le voit, en fait, de dos, qui est mort et tout.
Ah, mais c'est vrai, j'ai oublié ça.
Exact. On le voit donner à manger à une mouche. Il sort sa main comme ça, il dit, viens, ouais.
C'est vrai. Il donne pas à manger, il la mange.
Il la tire.
Il donne une barre chocolatée pour la pâter.
Au secours.
Oui, c'est vrai.
Mais je pense que le visage, on le voit. 25 minutes.
Très peu.
Lors des audiences tests, justement, tu me lances bien à chaque fois. Lors des audiences tests, avant la sortie du film, les scènes qui ont fait le plus rire la salle étaient celles se déroulant dans la salle d'attente. En observant cela, Tim Burton décida de tourner une scène supplémentaire qu'il inséra à la fin du film, alors que le tournage était déjà bouclé. C'est la fameuse scène où Beetlejuice se retrouve dans la salle d'attente et parle avec un type qui a une petite tête, je crois.
Ouais. Oui, et t'as celui qui a rétréci la tête.
Exactement, c'est ça. À la base, Catherine O'Hara refusa le rôle qui lui était offert pour Beetlejuice, mais Tim Burton la voulait tellement qu'il prit un avion de Los Angeles à New York et tenta de la convaincre durant tout un après-midi. En général, tu pèses pas mal quand Tim Burton fait un vol Los Angeles-New York pour te convaincre. C'est que tu pèses. Non.
Elle a dû dire à la fin,
Ouais. Je suis en train de dire que ça m'était jamais arrivé, quoi.
Non, jamais.
Pas ça que j'avais déplacé. Encore. Pourtant, je suis pas loin, je suis à Montreuil, hein, mais...
Est-ce que t'as la petite sonnette aussi? Parce que c'est ça qui fait le truc.
À un moment, dans cette fameuse salle d'attente, on peut entendre une voix au micro annoncer l'arrivée des passagers du vol 409. Et si on fouille sur Internet, on apprend que le vol 409 correspond à un avion de la United Airlines qui s'est réellement crashé en 1955. Et si ce vol a été choisi, c'est parce que, historiquement, c'est le tout premier incident aérien d'ampleur dans l'histoire des États-Unis, incident qui avait causé la mort de 66 personnes. Et apparemment, il y a tout un mystère autour de ce vol parce que jamais personne n'a su pourquoi il s'était crashé. Voilà, donc dans... l'histoire de l'aviation civile aux États-Unis, le vol 409, c'est un peu un vol mythique. Ça, c'est une info qu'on ne pouvait pas avoir en tant que Français quand on écoute, ça. Étant donné le succès immédiat du film, une suite a bien évidemment été envisagée et un script est même parvenu dans les mains de Tim Burton, qui a préféré se concentrer sur Batman. Dans ce script, l'intrigue se déroulait essentiellement à Hawaï, dans une ambiance Beetlejuice avec une chemise à fleurs. Pourquoi pas? Ça aurait pu être sympa.
Pourquoi pas, ouais.
Non, Beetlejuice à Hawaï, ça vous tente ou pas?
De toute façon, c'est tellement absurde que je trouve que ça tout fonctionne avec lui, en vrai.
D'ailleurs, il y avait des rumeurs qui annonçaient un futur Beetlejuice. Mais moi, je trouve qu'il y a des films comme ça qui se suffisent à eux-mêmes. Pas besoin de faire des suites. Qu'est-ce que tu penses, toi, des suites Flore au cinéma? Parce que depuis quelques années, il n'y a que des remakes, des reboots, des suites. Ça reprend pas mal le filon des années 80-90 pour surfer sur justement la nostalgie que nous, trentenaires ou... Non, t'as pas encore 30 ans, désolé. T'as 30 ans, bah tu vois, je peux te placer dedans. Tu penses quoi de cette récupération un peu et de toutes ces suites et ces reboots et ces remakes?
Je trouve ça très triste.
Ouais.
Vraiment très triste, ouais. C'est rare d'avoir des suites qui sont marquantes et qui fonctionnent. Personnellement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Le seul qui m'a marqué et que j'aime beaucoup, moi, c'est celle d'Alien, mais Alien, dernier Alien, je crois qu'il est sorti en 97. J'ai pas eu de. Même les Star Wars, tout, j'aime beaucoup Star Wars. Je suis sur ma faim, quoi. C'est dommage, ouais. Parce qu'évidemment, on a quelque chose de très. On a beaucoup d'affection pour les films qui sont sortis comme ça, qui ont fait un carton à l'époque, mais ils ont fait un carton parce qu'ils étaient très créatifs et qui reproduisaient pas quelque chose qui existait déjà. Donc, c'est vrai que là, de continuer des choses qui ont existé, qui ont marché avant et tout, c'est très compliqué déjà. Ils partent avec vraiment un handicap de ouf. Hein.
Moi, à part. Je trouve que Jurassic World, c'était plutôt pas mal. J'étais un peu sceptique. Mais finalement, je me suis pas tant que ça ennuyé. Moi, je suis partie des rares qui ont aimé Prometheus. Je trouve ça cool.
Moi, j'adore. Ah non, oui, par contre, Prometheus. Ah, ouais.
Tu sais que je crois que t'es la première personne que. Toi aussi, Aurélien ?
Ouais, j'adore.
Ah, moi, Prometheus.
Mais moi, j'ai adoré.
En fait, moi, j'ai eu beaucoup d'appréhension. Je pense que j'ai appris à l'aimer. La première fois que je suis allée le voir, on entendait, ouais, Ridley Scott, il a dit que c'était un truc avec Alien et tout. Enfin, vraiment, j'attendais, j'allais le voir en mode, oh, on va vraiment avoir une réponse. On l'a eu, mais je pense que je suis sortie là un peu déçue parce que j'avais beaucoup d'appréhension. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, mais non, en fait, il est vraiment hyper bien ficelé, il est magnifique. Ouais.
Tu sais que les gens le détestent, hein, ce film.
Ah, c'est pas vrai.
Mais vraiment, quand tu dis que t'aimes bien Prometheus sur Twitter, c'est comme si t'avais dit, j'aime bien Goebbels, par exemple. Non, mais vraiment, les gens. Non, peut-être pas, c'est vrai, j'ai abusé. Mais non, mais les gens détestent vraiment Prometheus. Alors que moi, j'ai trouvé ça génial. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas vraiment une suite, c'était l'univers d'Alien. Mmh. Et ce truc des. Cette histoire des ingénieurs.
Oh là là.
Moi, je trouvais ça génial. Pour moi, la scène où ils balancent une sorte de bactérie dans la rivière au départ pour créer l'espèce humaine, enfin. Oui, c'est ça, pour créer l'espèce humaine.
C'est un accident, genre.
Mais je trouvais ça. Moi, ça m'a passionné, en fait. Mmh. Et je trouvais ça trop bien.
Moi, ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois que les humains cherchent, tu sais, une vraie source. Pour trouver leur créateur comme si c'était, tu vois, genre, ils ont tout fait pour nous mettre là. En fait, à chaque fois, c'est une erreur, tu vois. Genre, en fait, l'humain était une erreur de la nature. Ouais, ouais. Et l'alien aussi, pour le coup.
Tu vois, c'est ça, en fait, il y a plein de sujets qui sont abordés comme ça, qui sont cool. Et puis aussi, la manière qu'a de filmer la science-fiction Ridley Scott, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Quand tu sens la patte directe,
enfin, tu vois.
Tu sais, ça rejoint un peu souvent ce qu'on se dit avec Guillaume, c'est qu'il y a des gens qui sont là à dire ouais, Prometheus, c'est de la merde, etc. Mais non, en fait. Genre, ça va être de la merde, c'est bien réalisé. Tu vois.
Alors, on peut être déçu de l'histoire.
Oui, mais on peut ne pas être sensible au film.
Est-ce qu'on peut choisir les mots ? C'est ça le problème à chaque fois. Ouais. Les gens, ils disent ouais, je viens de voir Tenet, grosse daube. Non, alors.
Il y en a quand même qui ont balancé sur YouTube, qui ont dit Tenet, c'est nul. C'est simplement nul. Mais non, c'est pas nul.
Non, c'est,
la mise en scène est extraordinaire, la réalisation est extraordinaire. Tu vois,
c'est du grand spectacle.
Mais oui, c'est incroyable. C'est pas nul. Je trouve ça incroyable que des gens puissent dire ça sur YouTube et que personne dans les commentaires dise « Bah non, c'est pas nul en fait. Pourquoi tu dis ça ?»
Le problème, c'est que ça se met du coup dans le même bac que des films nuls. Par exemple, tu regardes un film, je sais pas, Red Dingue de Danny Boone. Bon, c'est pas ouf. Tu vois, tu veux dire « Ouais, Tenet, c'est pareil, c'est pas ouf. » Bah non, c'est pas pareil.
Tenet, c'est nul. Red Dingue, c'est pas ouf.
Non mais voilà, c'est choisissez vos mots s'il vous plaît. Mais je vais faire le test une fois que ce podcast sera sorti, je ferai un tweet. J'aime Prometheus. On verra ce que ça donne. Parce qu'apparemment,
alors, j'ai déjà fait 2-3 fois. J'ai subi les foudres.
Les foudres.
Les foudres des internautes. Toi, t'en penses quoi des suites, remakes, reboots comme ça, Guillaume ?
Non, mais j'allais parler d'un truc que j'attends quand même. Le prochain Ghostbuster, parce que j'avais vu la bande annonce.
J'étais un peu déçu moi.
Oui, mais il y a, tu sais, il y a Paul Rudd, etc. Je pense
qu'il y a Paul Rudd.
Il y a tous les anciens qui reviennent. Peut-être ce truc où je vais me dire ah bon allez je vais de toute façon je vais aller le voir c'est sûr.
Il y a le fils de Redman qui est qui est là dans la partie mais je sais pas. J'étais un peu comme Flore, j'étais un peu.
Mais il y a des trucs qu'on peut pas toucher tu vois et je suis d'ailleurs content qu'il y ait des trucs où il y ait même jamais eu de suite à l'époque tu vois. Enfin, Roger Rabbit tu vois. Roger Rabbit ça reste Roger Rabbit c'est un film.
Mais tu vois ce que les Goonies ça fait des années que ça doit il doit y avoir une suite. Moi je suis très content qu'il y ait juste un seul Goonies.
Laissez ça comme ça. Faites des nouveaux films, faites des nouveaux trucs. Et ne refaites pas les Tortues Ninja en 3D là.
Désastre.
Laissez-nous tranquille.
J'ai même pas vu. Qui a vu les Tortues Ninja en 3D là?
Je voulais pas m'infliger ça. Non,
pareil.
Non, non. Moi je reste sur ceux des 90. Je suis bien contente avec le carton pâte sur le visage.
On serait pas des boomers.
Je refuse la nouveauté.
Alors, info suivante. Figurez-vous que Michael Keaton s'est inspiré du personnage Chop Top dans Massacre à la tronçonneuse 2 pour créer le personnage de Beetlejuice.
Ouais.
Tu sais, ce personnage un peu fou dans Massacre à la tronçonneuse 2, c'est un peu lui.
Mais il est dans le 1 aussi.
Il n'a pas la même coupe de cheveux d'ailleurs.
Il est dans le 1 aussi.
Il est dans le 1, il est dans le.
Il a un peu le même maquillage, la peau un peu, tu vois, un peu fade et tout. Et enfin, dernière info, Beetlejuice est l'un des films préférés de Tim Burton dans sa filmographie, ce qui n'est pas du tout le cas de Alec Baldwin. Encore aujourd'hui, il n'aime pas du tout ce film et trouve sa performance désastreuse.
Voilà. Eh ben oui, moi je suis d'accord. Il est pas ouf en termes d'acting, je trouve, avec Baldwin. Il est un peu. Il est pas marquant dans le film pour moi.
Je trouve qu'il est différent. Là, il paraît un peu tout fragile, tout mignon. Alors que moi, il a toujours le rôle d'un type dur, tu vois.
Ouais.
Mais moi, je trouve pas si mauvais que ça dans Beetlejuice.
Moi, je le trouve jeune. Tu vois, jeune dans son art, jeune. Voilà, bon, je vois ça maintenant, mais quand j'étais petite, j'aurais pas remarqué. Mais c'est vrai que là, je le trouve un peu jeune au début, quoi.
Par contre, ce qui est drôle, c'est que donc, j'ai vu ce film petit, je savais pas du tout qui était Alec Baldwin. Et j'ai revu Beetlejuice quand j'avais 18-19 ans. Et en revoyant le film, je me suis dit, ah, mais c'est Alec Baldwin en fait. Lui. Parce qu'il ressemble tellement pas au Alec Baldwin de maintenant. Il a des lunettes, il est un peu fragile et tout. Et en fait, j'étais garé de me dire, ah, mais oui, mais c'est Alec Baldwin, c'est incroyable.
Une petite maquette.
c'est ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant de petite maquette, moi, c'est un truc qui me fascinait dans le film. Parce que dans Beetlejuice, il y a Alec Baldwin qui fait une petite maquette d'une ville qui est pour lui la ville idéale. Et, et en fait, parfois, j'ai hâte d'avoir 70 ans pour faire ça. Ma petite ville en maquette, comme ça, avec un petit vidéoclub, un petit cinéma, tout ça, un petit diner. Ne me jugez pas. Je vois que vous êtes en train de me fixer. Ce sera ma petite. Voilà mon petit passe-temps. Plus tard, tu viendras regarder ma maquette.
J'aimerais regarder sa maquette.
Enfin, c'est ça, avec des cloches.
Ouais. Les vidéoclubs, ils s'allument. Bah, c'est bien.
Je t'appellerai pour que tu ailles voir ma petite maquette. Tu passeras un bon moment.
C'est génial, ça. Viens voir ma maquette.
C'est la dernière info. Alors là, si vous avez eu l'habitude de nous suivre, vous pensez que l'épisode est terminé. Eh bien non, car pour cette nouvelle saison, je me suis dit que ce serait bien de terminer chaque podcast par une série de questions à l'invité. Ça s'appelle « Le dernier et la dernière » et l'idée est de faire un tour d'horizon culturel de ce que tu as vu, lu, entendu ou acheté dernièrement, Flore. Mm-hmm. Es-tu prête?
Alors, je n'ai pas du tout préparé avant de venir.
Bah, c'est pas grave, tu vas...
Non, si, c'est vrai.
Elle a tout en tête.
L'ironie.
Le dernier film que tu as vu au cinéma?
Eh ben, c'était Tenet.
Tenet avec l'accent québécois?
Oui.
Bah, bravo.
Je sais pas pourquoi, mais...
T'es déjà parti à Montréal ou pas?
Never. Non, non, jamais.
Mais tu fais bien, c'est incroyable. Tu connais les petites expressions ou pas, non?
Calice.
Bravo. On nous écoute un peu au Québec, donc attention.
Non, c'est vrai que c'est un accent que j'ai expérimenté avec une pote. Et en fait, à chaque fois qu'on se voit, on se parle comme ça.
Bien joué. Alors, moi, j'ai vécu 2 ans à Montréal. J'ai pas réussi à choper l'accent. Mais par contre, j'ai chopé plein d'expressions qu'on utilise là-bas et ce qui me reste aujourd'hui. Comme par exemple, là-bas, les gens disent oh man. C'est comme
Oh man,
comme ça et tout. Ou alors, c'est comme. Parce qu'ils prennent beaucoup d'expressions américaines. Aux États-Unis, ils disent souvent « I was like », j'étais comme. Ouais, c'est ça, j'étais comme, tu vois. Et souvent, je dis « j'étais comme », alors que personne ne dit ça en France. Mmh. Voilà, peu intéressant, mais en même temps, non, je le place. Donc, le dernier film que tu as vu au cinéma, c'est Tenet.
Ouais, c'est
très bien. T'as aimé?
J'ai pris une grosse claque, ouais.
T'as compris combien de pourcents du film?
Je pense que j'ai compris pas mal, mais il faut que je le revoie, parce que je pense que c'est un film qu'on doit revoir. Pour moi, c'est ce film-là. Ça fait longtemps que j'avais pas eu une expérience au ciné. Enfin, vraiment, pour moi, tous les détails sont ficelés. J'ai des manques dans l'histoire. Je pense que j'aurais des « mais pourquoi ?» qui seront pas... j'aurais pas de réponse à ces questions-là, genre pourquoi ils ont fait ces choses-là, bref. Mais il y a les détails dans la musique, les musiques qui sont à l'endroit, à l'envers, il y a un travail exceptionnel dans le détail, dans tout.
En d'autres termes, tu n'as pas trouvé ça nul?
Bah écoute, bah nul, c'est pas le mot que j'aurais utilisé.
Non, c'est pas le mot qu'on utilise pour Tenet.
J'aurais pu faire un équivalent avec Danny Boone, oui, effectivement. Mais
bon. Le dernier film que tu as vu via une plateforme?
Eh ben, c'était The Game avec Michael Douglas.
Alors,
j'ai jamais vu.
Sur Netflix,
Amazon. Sur Netflix, ouais.
Sur Netflix, ok. Tu l'as jamais vu?
Je l'ai jamais vu. Je me suis dit, tiens, je vais me le mettre un soir. Là, je crois que c'était la semaine dernière et j'ai passé un bon moment. Ouais, franchement, c'était assez stylé.
Alors, c'est vraiment un des films typiques tel Le Sixième Sens, à ne pas spoiler. The Game.
Oui.
Mais c'est. Non, je peux pas rien dire. Mais au niveau du suspense, je trouve ça incroyable, ce film.
Ah, c'est ouf.
Film de David Fincher avec Michael Douglas.
Tout à fait.
La dernière série que tu as regardée?
Eh ben, c'était The Boys sur Prime.
Tout le monde me parle de The Boys. C'est vraiment cool.
J'ai compris The Voice.
Alors, The Voice Kids, franchement, mais oufissime. Vraiment.
Le petit Kylian a bien chanté.
The Boys, moi, j'aime bien ce contre-coup des super-héros, enfin l'envers du décor un peu de super-héros, parce qu'on voit beaucoup les super-héros sont gentils, nous défendent et tout. Il se passe des choses quand même, donc je trouve ça vachement intéressant. Moi, j'ai bien aimé.
Quelqu'un a vu The Boys autour de cette table?
Première saison, ouais.
Ouais, c'est bien.
J'ai pas encore regardé la saison 2, ouais, c'est bien, ouais. C'est cool.
Tout le monde me conseille.
Le ton est bien fou et il y a un côté un peu cinéma.
Ouais, et bien sanglant. Bien réalisé et tout, ouais. Tu t'y attends pas, mais t'as des trucs bien, bien sanglants, quoi. J'aime bien, moi.
D'accord. La dernière chanson que tu as écoutée?
Eh bien, c'est la bande-son de Tenet. Parce que j'écoute beaucoup de musique de film quand je bosse, et franchement, la bande-son de Tenet, en plus, en ayant vu le film et après en écoutant les musiques, ça te remet dedans à fond. Et le pire, c'est que ça m'arrive en bossant, en écoutant la musique, je me dis « Ah mais attends, mais ça c'était tel moment, mais c'est vrai qu'il s'est passé ça, mais il y avait ça aussi. » Enfin, du coup, pendant 3 jours encore après avoir vu le film, j'aurais pensé encore, et en écoutant la musique, évidemment, ça relance.
Ça me va, c'est parfait.
Mais écoute, moi je
le dernier livre que tu as lu?
Alors, c'est un livre avec des images, ça s'appelle Jouissance Club de okay. June Plat. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ça explique un peu avec des images aussi. Comment dire, avec des mots... la sexualité, en gros, voilà. Et c'est assez cool, c'est assez intéressant. Et il y a des images, des coloriages, si vous voulez, pour tout le monde.
Et alors, c'est un livre de coloriage.
On peut voir ça comme ça.
La dernière BD que tu as lue?
Alors là, ça va être un peu nul, mais bon, ça fait au moins 15 ans que je n'ai pas lu de BD. Parce que je ne suis pas BD du tout, mais j'ai des souvenirs de l'agent 212 à l'époque. Mon père avait toute une collection. L'agent 212, en fait, c'est un policier qui fait que des gaffes. Et je disais ça, mais quand j'étais avant d'être ado, quoi, donc c'était à plus de 15 ans, je pense.
Ok. Tu connais Aurélien, parce qu'Aurélien est un spécialiste de BD.
Non.
Ah merde, c'est lancé là-dessus.
En fait, ça n'existe pas.
Ça existe sûrement, mais j'ai des lacunes aussi dans ma culture BD.
Le dernier objet culturel que tu as acheté. Alors, pour les prochains podcasts, ça peut être, je sais pas, un t-shirt d'un groupe, une figurine, un DVD, un Blu-ray. Le dernier objet culturel que tu as acheté.
Alors, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. Ah. Quelqu'un me connaît très bien et je suis une grosse fan de The Mask et on m'a offert le vrai masque.
Ah, trop bien.
La réplique parfaite du masque de The Mask.
Puis je l'ai déjà eu en main, il fait pas de cheap.
Ah, mais non.
Il est un peu lourd et tout.
Ah, mais oui, mais vraiment, il est lourd. Moi j'ai l'impression que c'est le vrai masque du film, quoi.
Ça me donne envie de l'acheter.
T'as essayé de le mettre ou pas?
Bien sûr que
oui. On fait tous.
En plus, il y a un petit scratch derrière pour vraiment le mettre devant le visage. Bon, c'est un peu lourd, c'est un peu mal, mais.
Toujours un peu la blague de bouger un peu le visage pour que ton pote y croie, mon frère.
Ah, bah bien sûr, j'ai fait des mains sur les oreilles.
Forcément.
Ça n'a pas marché.
Forcément. Et enfin, dernière question, pour terminer, le dernier ou la dernière artiste que tu as scrollé sur Insta?
Bah, j'ai vu que vous avez fait un podcast avec elle, c'est Pénélope Bagieux.
Okay.
Que j'ai followé très récemment, là, et je trouvais ça vraiment très cool, son parcours, tout ça, et qui est illustratrice de BD. Et voilà, j'avais envie de suivre un peu sa petite vie sur Instagram.
Eh bien, merci.
Mais de rien.
Ce podcast est cette fois malheureusement terminé. Flore, c'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce
tout
que
pareil.
Tu peux nous en dire plus sur ton actu?
Oh là là, mon actu. Ben, alors je sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a un virus en ce moment qui passe. Voilà.
Quoi?
Et du coup, ben oui, je sais, c'est assez fou. Et comme moi je bosse dans le cinéma, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je travaille, mais qui ne peuvent pas encore sortir. Donc je ne peux pas encore dévoiler l'événement, tout ça. Mais bon, je travaille sur des événements et des ressorties de films qui sont pour l'instant retardés, quoi.
Et pour alimenter le compte Insta, est-ce que tu travailles déjà sur des dessins en lien avec des films? Ça, tu peux nous le dire un petit peu?
Ouais, parce que je pense que j'en ai une dizaine qui sont commencées et qui ne sont pas terminées, mais des dizaines que j'ai commencé à peut-être 5 ans, quoi, 4 ans. Le Kill Bill que j'ai posté récemment, c'est un Kill Bill que j'ai fait, que j'ai commencé il y a 3-4 ans, je pense. Donc, il y a quoi? Il y a Le Pingouin de Tim Burton, il y a quoi? J'ai fini récemment Un jour sans fin, que j'avais commencé il y a très longtemps aussi.
Tu fais les films de Danny Boone ou pas du tout?
Ah, écoute, j'en ai deux que j'ai pas terminé. Non, je rigole évidemment. J'ai Jurassic Park, j'en ai plein, mais que je commence, mais dont j'ai du mal à finir parce que je suis pas inspirée encore.
Très bien. En tout cas, je vous conseille d'aller checker l'Insta de Flore Maquin. Il suffit de taper Flore Maquin sur Insta. Et les photos, les dessins sont trop cool.
Oh, voilà. Merci beaucoup.
Pour le sujet du prochain épisode, on va se balader sur l'outil Cinémature que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinéma. Et on va trouver un film qui, encore une fois, aura de grandes chances de vous régaler. Ciao tout le monde, je tiens aussi également à remercier Vincent et Ninon qui ont participé à la réalisation de ce podcast et on vous dit à très bientôt. Ciao ciao.
Ciao.
Salut.
Salut.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.